Les clés de la ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.
Bienvenue à Dax, on est ravis d'être avec vous là pour une nouvelle étape des clés de la ville. C'est le printemps, bientôt l'été, on est ravis, nous sommes toujours sur les routes de France, nous sommes les saltimbanques des territoires, avec mon ami Olivier Marin du Figaro, ici à Dax, dans l'atrium, un écrin architectural. J'ai qu'une chose à vous dire, je vous le dis à chaque fois que je suis dans une ville, venez à Dax, c'est magnifique. Il y a très bonne madeleine d'ailleurs, puisque j'ai appris que c'était les meilleures madeleines au monde qui sont faites ici, pour ce nouveau programme. Bien évidemment, au menu de l'émission, Olivier Marin, comment ça va?
Très bien, très heureux également.
Sylvain, on est bien ici.
On est bien.
Voilà.
On est
j'allais dire, on est bien, Tintin. On est bon, pour les vieux, c'est ça.
Très bien, en tout cas au nom de Figaro Immobilier auquel s'associe bien sûr Radio Immo, on est très heureux d'être ici. On va une fois de plus se plonger au cœur des territoires, on va mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter aussi les enjeux de la ville. C'est un grand plaisir, on a toujours ce même principe qu'on rappelle, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises, on parle immobilier et logement, bien sûr, mais on parle aussi urbanisme, environnement... On va parler architecture, on va parler patrimoine. Et à travers notre émission, eh bien, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge. La ville se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On va le voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, des témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour la 8e étape de cette saison 5, après Nantes, après Poitiers, après Saint-Dizier, après Besançon, après Vichy, après Bordeaux et après Auxerre, bien nous sommes à Dax, reçus par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir à nos côtés, c'est Julien Dubois, maire de Dax, président du Grand Dax.
Bonjour. Merci Julien.
Alors, nous aborderons bien sûr avec vous l'habitat et le logement, les petits, les grands projets urbains à Dax. Et puis, comme toujours, on va retrouver nos partenaires ici en plateau. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons maître Jean-Christophe Guémard, notaire à Dax et dacquois. Avec lui, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix et des ventes immobilières à Dax. Il délivrera aussi des conseils pratiques. Pour représenter le neuf, Alexis Patachon, directeur général Next City, Pays Basque et Landes, sera à nos côtés. L'occasion d'aborder l'état du logement neuf et de la construction neuve à Dax et aussi son agglomération dans un contexte plutôt tendu. Mais on va voir qu'il y a aussi des opportunités, il y a des belles choses qui se développent. Et puis la séquence bien mieux, on retrouvera notre partenaire Elio avec Pauline Courbet-Dubos, qui est responsable des affaires publiques d'Elio, pour aborder la rénovation énergétique. Elle viendra nous éclairer sur les derniers dispositifs, les règles en vigueur, MaPrimeRénov, le DPE, les copropriétés, les interdictions de location pour les biens classés F et G. Voilà, elle nous donnera aussi l'état des logements côté performance énergétique à Dax et puis des conseils pratiques pour bien rénover, sans oublier le reportage de Grégoire Daricot, régional de l'étape, Sylvain en parlera tout à l'heure, avec Alexandre Burcard, qui va nous dévoiler les faces visibles et aussi les secrets de la cité basque. Voilà pour cette nouvelle étape des clés de la ville, terre d'histoire, de feria, de culture, de rugby, symbole de la découverte et d'une ville aux mille facettes. C'est un immense plaisir et comme disait le poète Sterling Menim, je n'étais venu que pour un instant, mais Dax m'a gardé comme on garde le temps, un banc, un ciel, une brume, un soleil. Depuis, tout revient quand le soir s'efface. Ton nom est dans ma voix et mon amour à Dax.
Alors là, Olivier, chapeau. Il a une voix extraordinaire. Faut faire de la radio. Hein. Merci en tout cas pour ce. Merci Julien Dubois, maire de Dax, de nous accueillir dans cet écrin architectural. Et bonjour notre ami Grégoire Daricot.
Bonjour Sylvain.
Voilà,
bonjour,
c'est notre super producteur. Voilà, on l'appelle le cartel multiservice. Merci d'être avec nous. D'ailleurs, un petit clin d'œil au général Daricot qui est dans la salle avec Madame Daricot, vos parents. On est très heureux, très honorés qu'il soit parmi nous. Voilà, on ne va pas bouder notre plaisir. Vous nous avez préparé, Grégoire, quelques images. Vous allez nous en dire quelques mots.
Oui, j'ai essayé, Sylvain, d'avoir un regard le plus objectif possible sur cette ville de Dax que je connais bien, dans ce département des Landes qui, selon moi, est le plus beau département de France. Alors, je le dis, mais il ne faut pas trop le dire parce qu'il est encore assez préservé. Mais il faut quand même le dire parce que c'est un beau département dynamique, avec une belle histoire et une nature
magnifique. Et d'ailleurs, l'un de vos aïeux a son cœur dans la cathédrale.
Oui, on a une petite histoire familiale dans la ville de Dax.
Voilà, le général Augustin Daricot.
Et c'est pour ça qu'on a essayé de vous faire un reportage avec de belles images pour mettre en valeur cette ville qui, en plus, a changé ces dernières années, qui est une ville dynamique, qui a retrouvé une croissance et une vigueur. Et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer avec ces images.
Voilà, je vous propose, les amis, qu'on regarde avec délectation les images que vous avez tournées.
Bonjour à tous, ça y est, les clés de la ville s'arrêtent à Dax. Nous sommes au bord de l'Adour, cette rivière qui va se jeter dans l'océan un petit peu plus loin, vers Bayonne, vers Anglet. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette station thermale d'excellence. Nous sommes ici au sud, en toute objectivité, de la magnifique forêt des Landes de Gascogne, en plein cœur de la préfecture du plus beau département de France, les Landes. Dax, c'est la 46e étape de notre émission Les Clés de la Ville. Moi, je vous propose tout de suite d'aller la visiter ensemble. Les Clés de la Ville, saison 5, épisode 8, c'est parti. Bienvenue donc à Dax, vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, dans une ville plus que millénaire. Longtemps la ville la plus importante des Landes jusqu'au XVIIIe siècle, Dax est un témoin privilégié de l'histoire du sud-ouest de la France. Fortification romaine, situation géographique stratégique, fonction administrative, port commercial fluvial et surtout première station thermale de France avec 16 établissements, il faut dire que la cité landaise a tout pour plaire. Une ville à l'eau magique, selon la légende qui remonte à l'Antiquité. La garnison installée sur place avait pour mascotte un chien âgé et perclus de rhumatisme, qui passait son temps à chauffer au soleil de l'été ses membres raides. Alors qu'il devait partir en campagne et donc abandonner le chien malade, le centurion partit la mort dans l'âme. À son retour, miracle, le chien était là et bien portant, le poil soyeux. Curieux, le centurion se mit à le suivre et découvrit que l'animal s'en allait s'allonger dans les boues chaudes qui entouraient une source thermale. Meurtri lui-même par sa campagne et entouré de soldats souffrants, il fit l'expérience. La légende naquit ainsi et toute une légion fut remise sur pied. Propose de continuer notre escapade dacquoise avec une singularité. On est ici dans les arènes de la ville de Dax. On était obligé de s'arrêter pour vous parler de cette spécificité culturelle. Moi, je vous propose d'aller la visiter pour en savoir un petit peu plus à ce sujet.
dicton gascon qui dit « pas de fête sans course ». Ça fait le lien bien sûr avec la course hollandaise et la culture de la tauromachie qui est très liée aux festivités. D'ailleurs, ça a donné lieu à la construction d'arènes en bois d'abord, place Saint-Pierre, place de la course à Dax. Après un incendie à la fin du 19e siècle, les arènes en bois ont brûlé et on a ressenti ce manque et donc très rapidement, le maire de l'époque a entamé un projet pour construire des arènes en dur. Et donc, c'est ainsi que sont nées les arènes de Dax. Elles ont été construites en 1913. Le projet est confié à un architecte qui s'appelle Albert Pommade, qui est un architecte local. Il est originaire de Mont-de-Marsan. Et ici, il va faire de nombreuses réalisations, dont les arènes. Ce sont des arènes très inspirées, bien sûr, de l'Espagne, notamment les arènes de Séville, voilà, donc elles ressemblent beaucoup. On va retrouver l'Espagne aussi dans les couleurs, le blanc, le rouge, l'ocre. Il y a deux moments forts pour les arènes, ça va être donc les ferias autour du 15 août, cinq jours et nuits de fêtes qui vont s'orienter autour de plein de traditions. Et ensuite, un autre moment fort, ça va être le festival Toros y Salsa en septembre, qui est un festival autour justement de la culture espagnole, de la culture taurine et de la culture salsa, musique et danse.
Voilà les amis, en venant ici à Dax, je voulais absolument vous emmener ici à la base hélicoptère du 6e régiment d'hélicoptères de combat parce que si vous visitez cette ville de Dax, il est possible que vous entendiez des bruits spéciaux, des bruits de rotors, des bruits d'hélicoptères. L'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle est implantée ici dans la ville de Dax et il était très important de venir vous présenter le poids qu'elle a dans la région et puis vous emmenez visiter avec nous le musée de l'ALAT. Je vous propose de partir ensemble pour les découvrir. Mon colonel, merci beaucoup de nous recevoir. On est ici dans le musée de l'ALAT qui est sur la base du régiment d'hélicoptères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le poids de l'ALAT sur le territoire de la ville de Dax et l'importance qu'a cette base dans la ville des Daquois?
La base de Dax, la base école 6e RHC, est le creuset de formation de tous les pilotes d'hélicoptères de l'État français. Ici, nous allons former les pilotes d'hélicoptères de l'armée de terre, mais aussi de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace, et aussi nos compatriotes belges. Il faut imaginer l'école de Dax comme un auto-école du pilotage de l'hélicoptère. Ici, les jeunes apprentis pilotes vont apprendre à piloter un hélicoptère. Une deuxième étape, une fois qu'ils auront leur brevet de pilote professionnel, sera de passer à l'école qui se situe au Canet des Morts, où ils vont apprendre à piloter l'hélicoptère de combat qui sera leur compagnon pour toute leur carrière. L'armée de terre est l'armée qui possède le plus gros parc d'hélicoptères de l'armée française. En fait, tout ça est dû à l'utilisation que l'on va faire de l'hélicoptère. Dans son histoire, l'aviation dans l'armée de terre a servi à faire tout d'abord de l'observation. C'est ce rapport avec le sol et la proximité avec les soldats qui fait que l'armée de terre va récupérer le parc d'hélicoptères. L'hélicoptère va servir à observer, à guider les tirs de l'artillerie. C'est ainsi que l'on va s'en servir au début et c'est pourquoi finalement l'usage va faire qu'il se trouve employé dans l'armée de terre. Dès le début, l'armée française a souhaité mettre en place des musées dans ses écoles de formation pour permettre aux soldats, aux sous-officiers ou aux officiers qui venaient apprendre leur métier de soldat à comprendre d'où ils venaient et à connaître leur histoire. Donc dans chacune des écoles se trouvait et se trouve encore actuellement un musée dans lequel le jeune qui s'engage va pouvoir découvrir l'histoire de ses anciens pour pouvoir mieux se projeter dans son futur métier. Ce sont des machines très complexes, les hélicoptères, qui ont mis du temps par rapport à l'avion à s'imposer, tout simplement par la complexité de la machine. Et on a énormément d'histoires d'hommes et de femmes que l'on pourrait, que vous pourrez découvrir en venant visiter le musée.
De l'Antiquité à la période industrielle, en passant par le Moyen-Âge et ses remparts encore debout, aujourd'hui ville d'art et d'histoire comme 118 autres villes en France, Dax est une ville active et dynamique. une ville que nous sommes ravis de vous faire découvrir.
Ainsi s'achève donc cette 46e étape des Clés de la Ville, la 8e pour notre 5e saison. J'ai été ravi de vous emmener à la visite de Dax, la sous-préfecture des Landes. J'espère que vous avez pu apprécier cette ville d'art, cette ville d'histoire, cette ville de culture. On est face à l'atrium pour nous retrouver lors de cette émission. Sylvain, Olivier, c'est à vous. Et puis moi, je vous souhaite une bonne émission.
Je ne dirai qu'un mot, mon cher Grégoire, bravo. C'était de très très belles images, ça nous a beaucoup plu. Ça vous a plu dans le public ? C'est superbe, hein ? Des très très belles images. C'est aussi une façon un peu différente de voir la ville. Et merci d'avoir obtenu les autorisations pour aller sur la base militaire. On est ravis.
Merci peut-être surtout à l'armée qui nous a reçus et qui nous a ouvert les portes de la base dans un environnement qui est celui qu'il est aujourd'hui.
Bien sûr.
Et l'armée, notamment le commandant Josserand et le lieutenant-colonel Ra qui nous ont accueillis sur la base et qui nous ont vraiment ouvert les portes.
Alors, je vous encourage, les amis, bien évidemment, à télécharger le film et aussi à le diffuser très largement. C'est aussi, d'ailleurs, et c'est un peu le concept que nous avons avec Olivier, de découvrir la ville autrement. Merci, Grégoire. On va entrer donc sur cette première partie. On vous propose un entretien direct avec le maire. Julien Dubois, on le voit bien, hein, puisque Dax est pétri d'une histoire qui est une histoire commune dans notre pays, avec une longue tradition. Et depuis que vous êtes arrivé aux affaires, vous faites cette tentative qui n'est pas simple de garder finalement les pieds dans cette tradition, dans ce qui honore la ville, tout en ayant une vision innovante de l'avenir. Et le renouvellement urbain est une des clés finalement de ce relais de, on va appeler de croissance, mais le prolongement, c'est presque une vision qui porte la ville jusqu'à 2035, puisque vous avez des projets très ambitieux que vous mettez en œuvre depuis que vous êtes arrivé aux affaires. Vous avez fixé un cap de 10 objectifs et que vous avez défini en consultation avec, on les appelle les Dacquois et les Dacquoises. Le Dacquois, c'est une commune génoise, vous savez, moi, c'est très bon la Dacquoise, comme ça. Voilà, il manque plus qu'un peu de praliné. J'ai envie de vous demander très prosaïquement ce cap que vous avez fixé pour 2035, qui est très ambitieux, que vous avez classé dans ces 10 objectifs. En quoi il consiste exactement ?
Ben, comme vous l'avez dit et illustré dans ce superbe reportage pour lequel je vous félicite et je vous remercie, la ville de Dax, tout le monde est d'accord pour le dire, elle est riche de beaucoup d'atouts. Un emplacement géographique privilégié, une richesse patrimoniale unique, une histoire forte et une culture sur laquelle on peut s'appuyer, avec notamment une activité telle que le thermalisme, qui en fait fait connaître Dax bien au-delà de ses frontières et a permis de la doter d'équipements supérieurs à celles que peuvent connaître des villes de 22 000 habitants. Mais alors que nous avions été élus sur un programme électoral bien identifié, pour lequel d'ailleurs l'essentiel, voire la quasi-totalité des points vont être cochés et les actions menées d'ici 2026, il nous semblait intéressant de revenir vers la population, vers les habitants de la ville, pour rédiger avec eux, confirmer avec eux ce qu'on peut appeler un projet urbain à l'horizon 2035. C'est donc la procédure qu'on a appelée Dax 2035 et qui nous a permis de nous projeter partant du principe que les décisions qu'on prend aujourd'hui, qu'on prend sur les 6 ans de mandat, elles engagent la ville bien au-delà et que donc il faut avoir à l'esprit de réfléchir bien au-delà des 6 ans pour lesquels on a été élu. Et effectivement, comme vous l'avez précisé, cette procédure nous a amené à dresser les traits de ce que devait être notre action, le cadre dans lequel on devait agir pendant ces 6 ans. Et le fil rouge, l'essentiel de ce qui a été déterminé, c'est de conforter l'attractivité de la ville de Dax. Parce que si nous sommes forts de nos fondamentaux, une collectivité, un territoire qui n'évolue pas, qui ne s'équipe pas, qui ne se prépare pas à répondre aux défis de demain, en 2035, on aura des impératifs qui ne sont pas obligatoirement ceux d'aujourd'hui. Et pourtant, notre ville, elle sera là. Et il faudra qu'elle y réponde. Et donc, notre cadre a été fixé. en co-construction avec les habitants. On a souhaité les faire participer aussi à cette réflexion. Et donc, on a déterminé ce qui devait permettre à notre ville d'être efficiente dans les années qui viennent et aussi de renforcer son attractivité et le bien-être de ses habitants. Très rapidement, on a déterminé qu'il fallait investir massivement sur les espaces publics. Ces espaces où tout le monde se retrouve, où les gens viennent nous rendre visite. Et donc, on a mené une opération très forte de réhabilitation des espaces publics du centre-ville. Vous avez la quasi-totalité du plateau piétonnier qui aura été refaite en 6 ans, ce qui n'est pas simple à mener.
C'est clair.
Des places essentielles aussi dans l'organisation de notre centre-ville ont ou vont être réhabilitées. C'est le cas de la place Thiers à proximité et demain de la place Camille Bouvet, le marché couvert, pour d'une part leur donner d'autres usages. On avait des places qui se prêtaient plutôt à uniquement du passage, voire du stationnement automobile. Ces endroits-là vont devenir des squares, des endroits où on va venir passer du temps, où on va venir se retrouver dans un espace végétalisé et donc qui permet de se rafraîchir dans un contexte de réchauffement climatique dont peut-être on reparlera. Il faut que on ait envie de venir dans notre ville et plus précisément dans notre centre-ville qui en est le poumon. On est donc dans des rues piétonnes réhabilitées et sympathiques pour flâner. On est sur des places sur lesquelles on peut venir passer du temps sans bien évidemment non plus sacrifier le stationnement et les mobilités, parce que il faut qu'on puisse venir facilement dans des villes comme les nôtres.
Vous n'avez pas totalement supprimé la voiture dans le
centre-ville. Pas du tout, parce que il faut reconnaître aussi que on vit dans un environnement rural, semi-rural et urbain, et que donc la voiture continue à être un moyen de locomotion essentiel pour les habitants du territoire.
Bien sûr.
Et ça n'est pas à nous de déterminer qu'ils doivent l'abandonner. Mais par contre, c'est vrai que on doit mettre en place aussi les nouveaux moyens de se mouvoir différemment, les nouveaux types de mobilité. C'est pour ça qu'on développe le transport en commun pour que toutes les communes de l'agglomération puissent être desservies. C'est pour ça aussi qu'on développe des pistes cyclables pour que l'usage du vélo et des mobilités douces soit aisé et que donc tout le monde puisse les employer. Donc voilà, réhabilitation des espaces communs comme un premier effort significatif. En faisant que ces espaces sont plus agréables et qu'on a envie d'y venir et aussi plus végétalisés parce que ça fait partie des enjeux auxquels doivent répondre des villes comme les nôtres. Et puis des équipements structurants. On a vu nos arènes qui sont magnifiques et qui témoignent de l'histoire de notre ville dans votre reportage. Mais on a aussi déterminé que une ville moyenne comme la nôtre, située là où elle est, ville thermale, devait se doter d'équipements significatifs. C'est pour ça que un projet de salle de spectacle polyvalente va prochainement voir le jour. On pourra assister à des spectacles d'envergure, des concerts, des salons, développer aussi le séminaire d'entreprise. Et puis, on a permis l'essor, puisque ça y est, les premiers travaux ont commencé, d'un golf, un équipement qui manquait aussi pour une ville comme la nôtre. Alors un golf moderne qui répond bien évidemment aussi aux enjeux environnementaux, mais un équipement qui va faire aussi que, en fait c'est ce qu'on cherche, notre ville reste ce qu'elle est, forte de sa culture, de son patrimoine, mais bascule grâce à ses équipements, grâce à ses investissements sur une nouvelle ère qui va permettre d'attirer à nous de nouvelles personnes et faire que les personnes qui y vivent déjà y vivent encore mieux.
Olivier Marin.
Alors, justement, dans le prolongement de ce que vous nous indiquez, là, on voit bien le cap pour 2035. Vous le disiez, hein, l'attractivité aussi d'une ville comme Dax et de province, c'est essentiellement son centre-ville. Avoir envie de venir en centre-ville, c'est investir massivement donc dans les espaces publics. Ça veut dire des travaux, rue par rue, avec des réseaux souterrains en 10 mois, plateaux piétonniers, éclairage, végétalisation, avec des interruptions pendant les périodes de fête. Alors vous nous direz aussi comment c'est vécu, notamment peut-être par les commerçants, où c'est pas évident quand on fait des travaux. Et puis preuve en tout cas que vous tenez à connaître et à mesurer la fréquentation du centre-ville tout au long de l'année. Vous utilisez donc le logiciel My Traffic qui donne en temps réel l'affluence du centre. Alors ça détecte les téléphones portables, ça donne des indicateurs. Si un visiteur vient 3 fois par jour dans la zone, il n'est compté qu'une fois. Mais s'il vient 20 fois dans le mois, il le sera 20 fois, sachant qu'il faut rester un minimum de temps pour entrer dans les statistiques et ça prend pas en compte évidemment les gens qui passent en voiture. En tout cas, apparemment, ce sont des données qui sont en progression régulière. Vous cumulez 1 million 300 000 personnes sur un mois en moyenne qui viennent dans le centre de Dax pour dormir, pour se restaurer, pour travailler. Est-ce que vous êtes satisfait à la fois de l'application et puis surtout de la fréquentation du centre ?
Ouais, on ne se satisfait jamais en regardant le thermomètre. Ce qui compte effectivement, c'est d'aller bien. Et si nous avons choisi ces outils, c'est pour parler avec des éléments objectifs, parce que il faut toujours se méfier, notamment quand on est élu, du ressenti qu'on peut avoir,
bien sûr.
Et qui peut nous permettre d'être toujours persuadé qu'on a fait des choses extraordinaires. Ce qu'on voulait, c'est avoir des éléments objectifs, parce que justement, vous l'avez souligné, on a eu une volonté ambitieuse, un programme ambitieux lui aussi, de faire tous ces travaux, ces investissements dans un temps très court, alors que on refait toujours des réseaux souterrains, ce qui se voit aussi avec les rues pavées, mais aussi l'électricité, et que donc il fallait être prudent sur les conséquences de tout ça, dont on était convaincu qu'elle serait vertueuse à terme pour notre ville. Et effectivement, on a constaté, un, que la fréquentation du centre-ville ne cesse d'augmenter depuis 2020, malgré les travaux, et de manière significative après, quand les travaux sont finis rue par rue. 1 300 000 personnes, vous l'avez dit, c'est plus, par exemple, mais de manière significative, plus de 400 000 personnes, que des centres commerciaux que on a en périphérie. Ça veut dire que la population, elle est là, en centre-ville, et oui. Il faut savoir comment l'aiguiller, l'accompagner et faire qu'elle y reste et qu'elle fait plus de choses que ce qu'elle y fait naturellement, et notamment pour consommer. Ça a été la première satisfaction. On a constaté d'ailleurs aussi, grâce à cette application, que pour les fêtes de Dax, pendant 5 jours, c'est 1 500 000 personnes qui viennent nous voir en cumulé. Ce qui, vous l'avez compris, pour une ville de 22 000 habitants, n'est pas neutre. Et ce qui joue bien évidemment aussi sur la notoriété de notre ville. Mais c'est aussi une possibilité d'accompagner les forces vives du centre-ville, et notamment les commerçants, tous ceux qui pratique une activité dans le centre-ville, et bien évidemment qu'ils souhaitent que cette activité soit toujours en croissance. On peut aussi déterminer d'où viennent les personnes qui nous rendent visite. Bref, on a là des outils, et c'est vraiment notre objectif, qui nous permettent de monter en gamme. Parce qu'une fois que la collectivité a investi massivement sur les espaces publics, il faut aussi voir ce qu'attendent les gens et comment on peut en permanence faire qu'ils ont de plus en plus envie de venir profiter de notre centre-ville, de tous ses services, de ses équipements. Parce que, encore une fois, un territoire qui n'avance pas, qui n'investit pas, il stagne, il recule, et au fur et à mesure, il perd des positions. Et on voit l'effet, hein, juste pour finir sur cet aspect-là, de notre politique, c'est que on a retrouvé une croissance démographique. Et ça, c'est le signe principal de la vitalité d'un territoire.
Vous avez raison de le souligner, parce que c'est le curseur principal. On l'a vu dans des villes qui sont quand même à l'épreuve, hein, comme Saint-Dizier, hein, Olivier, ouais. Sur laquelle, de façon très graduelle, avec la disparition notamment des bases militaires qui ont fermé, mais il y a eu le cas aussi à Châteauroux, où il y avait une dénatalité, une démographie négative pendant plusieurs années, qui commence maintenant à revenir comme étant finalement une alternative. Il y a une autre question qui se pose sur vos territoires, parce que c'est vraiment un territoire qui a une vraie attraction, c'est le changement climatique. On ne peut pas ne pas intégrer, et vous l'avez dit, d'ailleurs vous le dites régulièrement, le changement climatique indépendamment des problématiques que représentent les territoires. Vous avez raison de dire que quand on est sur des territoires comme le vôtre, on a besoin de la voiture. Et donc quand on dit à Paris qu'on est sur la ville du quart d'heure, quand on est dans des régions, on est plutôt sur la région de 20 minutes en voiture. Et donc on fait beaucoup plus de trajets, bien évidemment. Ce changement-là a sur votre territoire notamment, comme à quelques kilomètres sur la côte, les problématiques de l'érosion. Hein. C'est une question qui est assez prégnante, qui prennent de plus en plus de place. Quand on est effectivement dans cette équation, vous en tant que maire, pour la préservation à la fois d'un territoire qui correspond aussi et qui est le corollaire de l'attractivité, comment vous appréhendez ces risques climatiques dans la ville que sera demain ? Vous avez déjà fait de gros efforts sur le centre-ville, parce que vous avez redonné une véritable vitalité. Il faut quand même le dire, ça c'est très important, des centres-villes qui s'étaient désertifiés, qui aujourd'hui reprennent des couleurs, ça c'est l'action déterminée du politique que vous êtes, mais sur le risque climatique, quelle est votre vision, alors que vous êtes à une encablure de la côte ?
Oui, alors le recul du trait de côte ne nous concerne pas encore.
Non. Mais
peut-être que dans quelques années, quand vous reviendrez, on sera devenu une cité balnéaire, mais on n'en est vraiment pas là. Mais par contre, là, vous avez entièrement raison, c'est que oui, on est touché par ces questions climatiques comme toutes les villes de France. Et d'ailleurs, je crois que tous les élus aujourd'hui, en responsabilité, ont compris que ces enjeux sont majeurs. Et moi, je ne perçois pas l'environnement comme un fait à part qu'on doit gérer de manière spécifique, mais c'est plutôt quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit en permanence et dès qu'on prend une décision pour l'avenir de notre collectivité.
Notre vision, parce que pour nous, c'est une découverte, hein, Dax, c'est vraiment une belle découverte. Nous, on a été frappés de la nature en ville. En fait, vous avez préservé des îlots de fraîcheur qui ont permis, etc. C'est assez rare hein, de le voir. Ça, c'est vraiment une action que vous menez au quotidien.
Hein. Oui. Et au-delà de les préserver, on va en mettre de supplémentaires. Comme je vous le disais, on a aujourd'hui.
Vous allez rendre à la nature une partie de.
Pour prendre un exemple, oui, on a aujourd'hui une place qui est aujourd'hui imperméabilisée en totalité à vocation de stationnement. Et là. On va raccrocher cette place au centre-ville et on va lui redonner cet aspect de square en maintenant le stationnement par ailleurs bien évidemment, mais pour que parce que c'est un sujet mais pour que on ait un endroit où justement on va venir flâner, se reposer et en fraîcheur, parce que ce réchauffement climatique, ces évolutions climatiques, vous parliez aussi de phénomènes pluviaux beaucoup plus fréquents et forts que ce qu'on connaissait auparavant.
Absolument.
Ils ont des conséquences puisqu'on a l'avantage, mais qui peut être un danger si on ne le gère pas bien, d'être traversé par un fleuve. Une ville traversée par un fleuve, c'est un gage de beauté, d'espace sur lesquels on aime aussi venir se promener, mais il faut aussi savoir le gérer, parce que lorsque le fleuve sort de son lit, lorsque les crues sont importantes, il peut y avoir des risques pour la population et les biens. Et ça, on le gère de manière très précise à Dax, puisque on a la connaissance de ces crues. Alors une crue quinquennale, elle devient cinquantennale et puis décennale, c'est-à-dire que on est de plus en plus confronté à ces risques. C'est pour ça que l'agglomération, qui a pris cette compétence gestion des eaux et des milieux aquatiques et prévention des inondations, la compétence GEMAPI, investit des millions d'euros chaque année. Ne nous projetons pas aussi loin. Oui. Des millions d'euros chaque année pour protéger les populations, les biens, afin que on puisse vivre avec notre fleuve en toute sécurité. Mais c'est vrai que ces sujets-là, du coup, doivent être au cœur de nos décisions. Aujourd'hui, on ne prend pas une décision sans avoir réfléchi à ses conséquences sur le plan environnemental.
Y compris dans la structure du bâti. Hein. C'est-à-dire que vous intégrez le bâti, parce que ce que j'aime bien dans votre définition, c'est que vous n'éludez pas la structure des bâtis dont vous avez besoin. Mais vous faites coexister finalement la nature avec le fait de construire. J'ai pas dit bétonner, hein, j'ai dit construire.
Exactement. En fait, toute la difficulté, tout l'enjeu et tout ce qui fait d'ailleurs la beauté d'un mandat d'élu, c'est de prendre en compte des contraintes. On a, puisqu'on est traversé par un fleuve, une contrainte forte sur le risque inondation, et de pas se contenter de dire il y a un risque inondation, donc on fait rien, on attend, tout en sachant qu'on a besoin de faire avancer notre territoire et de créer, je pense qu'on y reviendra, du logement. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'on fait sur un quartier qui est de ce point de vue-là emblématique sur Dax, qui s'appelle le Sablard. C'est un quartier qui est situé de manière stratégique. Il est à mi-chemin entre notre gare TGV, qui fait qu'on est, je le redis, à 3h15 de Paris pour les amateurs,
bientôt beaucoup plus court.
Hein, et ça sera encore plus court puisqu'on va améliorer les choses.
En 2032, je crois. Hein.
Oui, ouais. C'est en tout cas l'horizon qui est fixé. Donc à mi-chemin, ce quartier, entre notre gare TGV et notre centre-ville. Il a donc tout pour se développer naturellement. Or, puisqu'il est concerné par ce risque inondation, il y a beaucoup d'endroits qui ont été quittés, il y a des friches commerciales et industrielles, et on a du mal à remettre du logement alors qu'on a des endroits où on a la place. Donc on s'est penché sur le sujet, on a été d'ailleurs lauréat d'un appel à projet de l'État en 2020, projet Amiter, qui nous a aidé à réfléchir avec des personnes dont c'est le métier, des cabinets, en disant voilà, ce quartier, il a aujourd'hui des zones sur lesquelles on ne peut pas construire, mais il en a d'autres sur lesquels le risque est bien moindre et donc on pourrait densifier plus. Et donc on est en train de regarder comment on va pouvoir le réorganiser afin de lui redonner une vitalité, de lui redonner des usages qu'il n'a plus en termes de logement et de développement économique, afin que là aussi on ait une expansion, un essor et un dynamisme retrouvé. C'est en fait ça notre rôle d'élu en permanence, que de prendre une contrainte, de regarder ce dont on a besoin et de voir comment arriver à lier les deux pour que on sorte par le haut de ces situations.
Mais alors, justement, avant de vous interroger quand même sur la feria, parce qu'il y a des choses qui ont été dévoilées il y a quelques jours, justement, vous parlez d'élus locaux, d'environnement, il y a quelques jours, il y a une tribune qui a été envoyée par des élus locaux au Premier ministre en disant « Attention, attention, l'écologie qui était une priorité, on entend une petite musique. » Il dénonce la baisse du soutien au photovoltaïque, la réduction du fonds vert, la baisse du bonus écologique, la baisse de la rénovation énergétique, une petite musique qui est hostile aux ZAN, aux ZFE. Et ils disent « Attention, nous on est élus sur le terrain, on a engagé des initiatives et on a l'impression que l'écologie est reléguée au second plan. » Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que dans les faits et sur le temps long, ça ne pourra plus être le cas. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas remettre en question cette réflexion liée à l'environnement qu'on mène aujourd'hui.
Vous avez raison.
Il est vrai que dans un contexte de difficultés budgétaires, on voit que l'État va être en nécessité de rechercher des économies un petit peu partout.
Le fonds vert, c'est un scandale.
Il y a des mesures qui peuvent paraître vertueuses sur le moment, mais qui ne le sont absolument pas sur le temps long et sur le long terme. Parce que quand je disais que l'environnement ne doit pas être vécu comme une contrainte, mais on doit l'avoir à l'esprit dans toutes les décisions qu'on prend, c'est que finalement, il peut être vertueux. Et il y a des investissements liés à l'environnement qui deviennent vertueux sur le plan économique. Mais pour ça, il faut que la pompe soit parfois amorcée et ses fonds, du type fonds vert, le permettre. Sur le photovoltaïque, c'est pareil. On va, je crois, couper sur quelques centaines de millions d'euros d'aide, alors que c'est un marché qui peut générer des milliards derrière en termes d'économie et de transition écologique. Donc il faut faire attention, bien évidemment, à ces fausses bonnes idées. Et après, il y en a d'autres sur lesquelles on peut regarder. Vous parliez du ZAN. Moi, je suis convaincu que les territoires ne sont peut-être pas tous à regarder de la même manière. On a, vous savez, un réflexe très français qui est de mettre en place des réglementations qui s'appliquent de la même manière que vous soyez à Dax, dans la Creuse ou à Paris. Et bien évidemment, il y a des zones qui ont été urbanisées beaucoup plus rapidement que d'autres. Et sur celles-là, il faut vraiment calmer le jeu, surtout d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a laissé urbaniser de très grosses manières, mais il y en a d'autres,
Julien Dubois,
sur lesquels on peut dire, bon,
Julien Dubois,
il faut ralentir, comment on mais fait à un rythme moins soutenu.
Alors, j'entends ce que vous dites, mais nous on fait toutes les villes de France. Oui, il faut peut-être maîtriser l'urbanisation, mais la différence entre le volume d'autorisation d'urbanisme depuis 40 ans, qui est le même aujourd'hui, la crise, elle est réelle. C'est 18 millions d'habitants supplémentaires. Mais pas que ça. C'est aussi l'explosion de demandes de logement liées à la décohabitation de la cellule familiale. Comment on fait pour gérer cette démographie ? Il faut quand même bien construire.
Moi, j'ai une réponse à ça. Et
on est pas obligé d'être un maire bétonneur, comme on le dit trop facilement, pour dire « j'ai envie de loger ma population ».
Ça s'appelle l'aménagement du territoire.
Ah voilà.
C'est-à-dire que on a quand même, et là je vais vraiment
penser des portes ouvertes. Le ZAN peut être un frein parfois. Donc
on a aujourd'hui des zones sur lesquelles on a de la surpopulation, des métropoles complètement surpeuplées, dans lesquelles il est difficile de se déplacer, dans lesquelles aussi l'insécurité a cru en masse. Et puis on en a d'autres qui sont beaucoup moins urbanisées, qui sont beaucoup moins peuplées.
Alors gagner des habitants, d'ailleurs,
Adam. Et qui cherchent à gagner des habitants.
Gagner des habitants.
Alors que, dans le même contexte, on arrive quand même à se déplacer beaucoup plus facilement. Et sort des routes, des autoroutes, des liaisons ferroviaires, même si il y a quelques difficultés techniques qui font qu'elles sont peut-être pas assez performantes. Ou on peut travailler de la même manière à peu près partout. Moi, la communauté d'agglomération est une des premières en France, mais équipée, 100% de très haut débit. C'est-à-dire que 100% des habitants de l'agglomération du Grand Axe accèdent à la fibre et au très haut débit. Ça veut dire que si vous montez votre entreprise et vous mettez le siège social de votre entreprise sur le Grand Axe, vous travaillez de la même manière que si vous êtes à Paris, Bordeaux, Lille ou Marseille. Ça veut dire que...
Ou même à l'autre bout de la planète.
On peut aujourd'hui construire dans d'autres zones que dans ces métropoles surpeuplées, mais pour ça, il faut libérer un peu plus les choses dans certains endroits que d'autres et mettre en place tous ces éléments d'équipement qui permettent d'être à la même
enseigne. Je rebondis sur le projet de loi qu'on a appelé, en France, on aime bien les acronymes comme ça, la loi TRACE, vous en avez entendu parler, cette loi TRACE.
Elle remplace Lausanne.
Qui vise à assouplir, mais c'était aussi une promesse qu'avait fait l'exécutif.
Et les promesses doivent être tenues.
Avec François Bayrou qui a dit qu'il allait assouplir, etc. etc. On va lui laisser le crédit, le faire, avant d'attendre 2027, parce que de toute façon, je pense qu'on en a quand même pour jusqu'à 2027, voilà, c'est dit. Comment est-ce que vous êtes favorable à cette loi qui s'appelle TRACE, T-R-A-C-E ? D'ailleurs, on a Charles de Courson qui avait même introduit un projet de PPL, le projet de loi à l'Assemblée sur le statut du bailleur privé, mais on en reparlera tout à l'heure, pour dire, voilà, Lausanne, c'est bien, on est tous d'accord, faut pas trop urbaniser, etc., mais en même temps, on peut quand même loger les gens. Et aujourd'hui, on a 2 700 000 personnes mal logées, on a 4,5 millions de foyers en attente de logement aujourd'hui. Bref, c'est une galère absolue. On sait que les élections qui vont à venir, un des enjeux majeurs de la bataille électorale se fera sur le logement, qui est devenu d'ailleurs la première charge contrainte des foyers français. Vous en dites quoi, vous ?
Oui, bon, je pense qu'il fallait revoir les choses sur le ZAD, et encore une fois, Christophe Béchu, qui est un ami, serait pas tout à fait d'accord parce que... Et je suis, là où je le rejoins tout à fait, sur beaucoup de points, mais sur celui-là aussi, c'est que... il faut garder l'esprit du ZAN. On a urbanisé dans les 50 dernières années de manière très forte et il faut regarder les choses posément. Mais je crois qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, regarder les territoires différemment en fonction de ce que vous avez construit. La loi ZAN a un petit problème, selon moi, intrinsèque, c'est que si vous avez peu construit dans les 10 dernières années, vous pouvez peu construire dans les 10 prochaines parce qu'on vous prend un pourcentage de ce que vous avez construit. Mais si vous avez beaucoup construit, à la limite, eh ben vous gardez toujours une capacité de faire. Donc il y a ces choses-là à regarder et du coup les évolutions de traces peuvent aller dans le bon sens, mais il faudra pas s'exonérer d'autres objectifs qu'on doit avoir. Par exemple, sur notre agglomération, il y a des endroits encore où on peut construire. Par parenthèse, c'est d'ailleurs souvent le président de l'EPCI, de l'agglomération, qui a le mauvais rôle de dire « Ah ben non, ton terrain que tu avais toujours prévu comme constructible pour tes enfants ou pour le revendre, il ne pourra jamais l'être ». C'est vrai que souvent on a le mauvais rôle alors qu'on n'y est pas pour grand-chose. Mais de toute façon, il faut aussi avoir pour objectif et donc contraindre un peu sur l'extérieur de reconstruire ce qu'on appelle la ville sur la ville. C'est-à-dire que moi, sur le centre-ville de Dax, on a aujourd'hui tout un tas de bâtiments qui ont une valeur patrimoniale riche d'ailleurs et qui peuvent devenir de superbes logements pour des familles, pour des jeunes actifs.
Mais à réhabiliter où
il y a. Et il faut les réhabiliter,
sur le plan.
Exactement, avoir des ouvertures parce que les gens, ils veulent bien vivre en centre-ville, mais ils veulent aussi avoir des terrasses et des ouvertures et des espaces lumineux. Donc il y a tout ce travail à faire. Et de trop délier les liens de l'autre côté, c'est-à-dire d'ouvrir trop l'urbanisation, on n'arrivera pas à favoriser ce travail-là de reconstruction aussi sur le bâti existant. Donc tout n'est pas simple, tout n'est pas noir ou blanc, et on a vraiment besoin d'y aller... En regardant les choses de manière très particulière.
Dans le vif du sujet, on va avancer. Une dernière question.
On va évoquer quand même la feria. Vous avez dévoilé il y a quelques jours donc l'affiche de la prochaine feria qui aura lieu du 13 au 17 août prochain. Univers festif, symbole de l'identité locale, donc réunie dans un visuel. Les fêtes de Dax, ce sont 5 jours de festivités organisées chaque année qui se tiennent traditionnellement donc autour du 15 août. Avec tout le répertoire du patrimoine culturel immatériel français, ateliers musicaux, concours de danse, activités pour les enfants, gastronomie, courses landaises, ambiance festive avec les DJ. Alors pour ceux qui connaissent pas, Il y en a quelques-uns quand même. Qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation, d'accueil, d'attractivité, ces 5 jours de fête?
Ça doit être bon pour le commerce aussi. Hein.
Oui, on s'hydrate beaucoup, qui a des vertus sur le plan environnemental aussi, je n'en doute pas. Alors, vous parliez de DJ.
On dira pas comment, mais bon.
Il faut venir voir. Vous parliez de DJ, mais il y a aussi beaucoup de musique vivante,
oui, qu'on appelle,
avec
bien sûr.
Des groupes qui jouent en live toute la journée. C'est effectivement une grosse organisation, on le disait, 1 500 000 personnes l'année dernière
sur 5
pour une ville de 22 000
habitants
sur 5 jours. Donc ça nécessite de s'organiser un peu. On y travaille tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'une fois l'édition N clôturée, on prépare la N plus 1 dès le lendemain. Ça nécessite un engagement déjà de tous les élus et les services de la ville qui travaillent tous dans leur domaine pour que tout se passe au mieux. Ça nécessite aussi la mobilisation de beaucoup de bénévoles qui sont réunis en 3 commissions extra-municipales, la commission Fête Populaire, la commission Course Landaise et la commission Tauromachie, qui eux aussi travaillent dans leur domaine de manière bénévole, je le redis, en collaboration avec les services toute l'année, et puis un partenariat étroit avec des services de l'État, forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie.
Mais ça doit être un déploiement considérable.
C'est effectivement
considérable.
Des renforts nécessaires. On a eu quelques difficultés l'année dernière avec les JO, mais on y est arrivé.
Et l'accueil hôtelier, vous arrivez à gérer?
Il y a aussi effectivement.
Il y a l'offre hôtelière.
Voilà, mais juste pour finir sur nos partenaires, je voudrais pas oublier les services de secours, le SDIS, les pompiers, la Croix-Rouge, et puis notre centre hospitalier qui, bien évidemment, aussi est mis en configuration particulière pour gérer toutes les situations qui, jusque-là, touchons du bois, se déroule très bien.
Il gère des cas de surhydratation, par exemple.
Ouais, des fois, l'hydratation à outrance peut générer quelques conséquences, mais tout le monde est très modéré ici, terre de modération.
C'est connu.
Et effectivement, on a tout notre tissu hôtelier, vous le disiez, bien plus largement d'ailleurs que celui de Dax et de toute l'agglomération.
On a
un tissu, vous savez, de logements liés au thermalisme aussi, qui est l'activité principale. J'invite tout le monde d'ailleurs à choisir Dax pour faire sa cure, puisque vous m'en donnez l'occasion, qui est mis à contribution pour les fêtes. On a une magie, tous les Dacois, tous ceux qui sont venus une fois en sont ébahis. Pendant 5 jours, la ville est transformée.
Donc, ça démarre.
Elle est fermée pour faire la fête.
Ça
démarrera le 13 août cette année et ça durera jusqu'au 18 août, puisqu'on est toujours aux alentours du 15 août avec de la fête pour tout le monde. Des spectacles populaires et gratuits, des spectacles payants ou gratuits dans les arènes. Vous venez et vous allez trouver.
Ah, écoutez, moi je prends mes vacances dans la région.
À votre pied.
Du côté de Bordeaux, de Saint-Émilion, je ferai, c'est une bonne heure de route. Je viendrai, parce qu'à mon avis, parce que j'ai très soif pendant l'été, donc je bois beaucoup d'eau en général.
Vous serez donc le bienvenu, je pense que vous êtes dans la cible.
Et maintenant que vous m'avez dit qu'il y a un centre hospitalier, du coup, je suis rassuré. Merci beaucoup pour cette première entretien. Applaudissements pour Julien Dubois, s'il vous plaît. Voilà, dans quelques instants, on va recevoir Maître Guémard, notaire, ici à Dax, qui va nous donner un peu l'alpha et l'oméga des prix de l'immobilier, parce que c'est important. Est-ce qu'on se loge bien? Est-ce qu'on loue facilement à Dax? Puisque dans le territoire, je peux vous dire que c'est en ce moment, le marché locatif est extrêmement tendu. Donc on va le recevoir dans quelques instants. Il va nous parler des prix avec Olivier pour nous dire effectivement s'il y a des bons plans exactement. Et surtout, où il faut investir, quels sont les conseils que l'on va vous donner pour ici aller à Dax, vous loger ou investir, que ce soit pour les vacances ou même pour louer. C'est tout de suite après ça.
Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
De retour sur le plateau dans notre bonne vieille ville de Dax, où je vous encourage de venir. On a d'ailleurs noté les dates pour août, c'est à partir du 13 août, nous avons 5 jours de fête où on va beaucoup s'amuser. D'ailleurs, voilà, je vais passer certainement une journée pour cette feria extraordinaire, un lieu dans lequel il y a beaucoup de culture qui reflète également le sel de la ville de Dax, des Dacois et des Dacoises, toujours accompagnés de l'hôte de ces lieux qui est avec nous, c'est le maire de Dax, Julien Dubois. Applaudissements pour Julien Dubois. On va parler de l'immobilier ancien, comme c'est l'usage, avec le Conseil supérieur du notariat. Nous rencontrons tous les notaires de France de ville en ville. Bonjour, Maître Guémard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il est d'usage que notre ami Olivier Marin nous parle justement de l'immobilier ancien qui est aussi la clé de voûte de la revitalisation des centres-bourgs et des villes. C'est très important, Olivier.
Oui, et bien sûr, chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, donc, nous recevons Maître Guémard. Merci beaucoup. Avec vous, on va faire un tour d'horizon justement de cet immobilier ancien. L'évolution des prix et des ventes, quelques chiffres clés pour démarrer, 2 500 euros, ça c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Dax. Alors évidemment, il y a des disparités en fonction des quartiers.
Ça fait rêver quand même.
2 500 euros, 203 000 euros, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Dax, c'est moins 10% sur un an. Première question, Maître, avec la combinaison de la baisse des taux d'intérêt, du recul léger des prix, est-ce que vous sentez depuis quelques mois ou quelques semaines une reprise, une nouvelle dynamique sur le marché de l'immobilier ici à Dax ?
Alors oui, nous avons vraiment une reprise qui est plus une reprise qui met un frein à l'attentisme que la crise nous fait tous vivre. Aujourd'hui, c'est vrai que la crise, c'est la baisse des fréquences des mutations pour les notaires. C'est pas tant le prix, c'est plus ces ventes qui ne sont pas répétées. Mais je vais dire que Dax est une ville, une petite ville qui connaît moins la crise que d'autres villes. Pourquoi ? Parce que on a un marché immobilier assez unique en France. Nous sommes, d'ailleurs pour plusieurs raisons, la première c'est que nous sommes une ville thermale et qui, vous avez parlé de Vichy, qui reçoit à peu près, je pense, 15 000 curistes.
Nous, on doit être pas comparable.
À 50 000, première
50
ville.
50 000 curistes, c'est
je
énorme.
Pense, première ville de réception de curistes. Et ces curistes, on le voit dans nos études, ce sont des personnes qui sont des seniors, qui s'intéressent au marché immobilier et qui, tout au long des années, ont réussi à finalement trouver un intérêt, soit d'investissement, soit se sont arrêtés et ont acheté des maisons et les revendent quand ils sentent un peu en dépendance et vont retrouver leurs enfants. Donc il y a une mutation qui se fait par ce côté du thermalisme. Et on a un parc immobilier qui est très développé sur les studios curistes qui accueillent ces curistes.
Autrement dit, les petites surfaces plus élevées liées à la nature même du thermalisme, bien évidemment.
Exactement.
D'accord.
Et on y trouve un intérêt au niveau des investisseurs, puisque ces petites surfaces sont à 60 000, 70 000 euros. On peut aller à des taux d'intérêt, des taux de rentabilité de 5 à 8%. On peut coupler avec du LMNP, récupérer la TVA.
Oui, en meublé non professionnel.
Voilà, en meublé non professionnel. Donc, c'est très accessible pour les investisseurs, les petits investisseurs. Il y a également un intérêt, on en a parlé, de Dax, qui est géographiquement extrêmement bien situé. Nous avons la comparaison de toutes ces villes qui sont sur la côte, Hossegor, Cabreton, Biarritz, qui font rêver, mais où il est très difficile d'avoir du logement ou de la rentabilité sur ces logements. Dax a toujours eu un prix bas. Au terme des évolutions de prix, on a pris 30% depuis 5 ans, mais on était bas avant.
Oui.
Donc on garde une vraie cohérence au niveau de la rentabilité. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un centre-ville qui demande à être effectivement réhabilité. Des promoteurs s'y intéressent. On a des dispositifs avec des aides de la ville, mais également on est éligible à la de Normandie, donc on peut envisager...
La loi Malraux également.
Alors, loi Malraux, on a été, on est un petit peu moins, c'est un peu moins rentable.
De Normandie se développe un peu ce dispositif.
Alors, oui. De Normandie pour la réhabilitation, donc taxe est éligible, et au niveau fiscal, on a un intérêt de, certes l'engagement de loyer, mais de l'amortissement du bien, des travaux déduits, il faut faire au moins 25% de travaux. On a également les déficits fonciers. Pour tous ces immeubles anciens, les investisseurs ont intérêt à faire des travaux pour pouvoir les déduire. Et donc, le cœur de ville ne demande justement qu'à se régénérer.
Vous le disiez d'ailleurs, Julien Dubois, tout à l'heure, très justement, c'est aussi l'enjeu des maires de France aujourd'hui de régénérer leur centre-ville et notamment sur les centres-bourgs, les villes et les villes moyennes. D'ailleurs, Julien de Normandie, l'état d'esprit de la loi de Normandie, c'est ça, c'est favoriser l'investissement. Est-ce que on trouve des cas de surélévation? Parce que, et d'ailleurs j'aimerais avoir votre avis également, monsieur le maire, c'est un des enjeux majeurs, c'est la verticalité. Sauf que dans les villes à forte puissance patrimoniale ou traditionnelle, pas toujours évident de surélever de un ou deux niveaux, notamment sur des cœurs de ville. Parfois les façades sont protégées, parfois on est sur un environnement où les recours quand même pèsent. Néanmoins, ça reste un enjeu majeur. J'aimerais avoir votre avis, vous, en tant que notaire, sur cette question-là, et ensuite l'avis de monsieur le maire.
Alors, la surélévation à l'état pur est complexe dans le cœur de ville, pour deux raisons. Parce que des fois, les immeubles ne l'ont pas prévu au niveau structurel. Et deux, c'est des coûts quand même assez importants. Et aujourd'hui, je pense qu'on a de beaux immeubles avec une architecture qu'il faut préserver. Et déjà, avec les travaux qu'on va réaliser dedans, et pour qu'il y ait une cohérence au niveau de la rentabilité, il faut pas rentrer dans cette surélévation. C'est vrai qu'on peut.
Votre territoire ne serait pas, ne s'y prêterait pas.
Plus coûteux. Il serait plus coûteux de l'envisager.
Et puis il y a la protection du patrimoine. Je pense que c'est très important. Oui. Notamment, c'est un des enjeux.
Oui. Julien Dubois.
Comme le disait Maître Guémard, il y a l'aspect technique où effectivement on a des immeubles sur lesquels c'est compliqué et ça nécessite des renforts importants. On a des endroits du centre-ville où ça s'est fait. On a des projets en cours là sur lesquels. Quand c'est nécessaire, on le fait, parce que on est sur R plus 3, 4.
Politiquement, vous êtes favorable à cela.
On n'a pas de souci avec ça, d'accord. Dans la mesure où ça atteint, et on y revient, les objectifs qu'on se fixe. Un, accueillir, avoir des typologies de logements pour accueillir des familles. Deux, où on agrémente et on y ajoute ces espaces vers l'extérieur, luminosité et possibilité de vivre à l'extérieur. Et juste pour compléter ce qui a été dit, on travaille aussi sur ces dispositifs de défiscalisation et d'accompagnement. On parlait du Malraux qui sera beaucoup plus facile à mobiliser parce que on a, je vais pas entrer trop dans les détails et monopoliser la parole, mais on a établi un SPR, un secteur site patrimonial remarquable dans lequel...
Périmètre
dans lequel on va préserver le patrimoine, mais en contrepartie, je passe sur les détails des différents règlements qui vont être mis en place, vous allez pouvoir bénéficier de nouveaux dispositifs, notamment le Malraux, en fonction des travaux que vous avez effectués.
Okay,
parce que, juste, de notre point de vue, un appartement en centre-ville tire son attrait et son avantage comparatif de la qualité du patrimoine qu'on a préservé.
Bien sûr.
Si vous voulez avoir un appartement avec du BA13 et des pièces classiques, vous allez trouver en périphérie, sans souci, en centre-ville, vous allez avoir quelque chose de différent.
C'est tout le charme du centre-ville. On avance.
Un mot, maître, justement, sur la typologie des biens, et notamment les maisons ici à Dax. Qu'est-ce qu'on retrouve?
Alors, aujourd'hui, on se loge assez facilement.
Il n'y a pas de tension locative ici?
Alors, là je parlais des maisons,
mais
au niveau de la location, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une tension forte, et c'est d'ailleurs ça qui dynamise le marché. Pourquoi? Parce que finalement, l'investisseur est à coup sûr certain de trouver un locataire qui va justement rentabiliser son...
Donc le risque de vacances locatives, il est quasiment...
Alors le tourisme
le fait de palo, enfin, on est
ah oui, la vacance locative. Alors là non, à Dax on a vraiment une pression forte. Un loyer c'est 10 euros, c'est 10 à 15 à 14 euros le mètre carré.
C'est le plus haut.
C'est le plus haut.
D'accord.
Et l'investissement, on parlait des maisons tout à l'heure, on est entre 160 000 et 220 000, si vous voulez, sur le gros de nos transactions. Il est vrai qu'il y a des belles maisons, centre-ville, dans des quartiers voilà, où on arrive à des maisons à 500 000, 600 000. Il y a souvent des travaux, parce que c'est des maisons qui n'ont pas été rénovées depuis un certain temps. Le parc immobilier était un peu vieillissant, mais on trouve
tout type de biens. Normalement, ça devrait favoriser la venue d'investisseurs particuliers, de club deal ou de structures OPCI, OPPCI ou SCPI avec un risque de volatilité ultra maîtrisé.
Alors,
on n'a pas l'impression justement que les volumes d'investissement sont si massifs que ça.
Je pense que les SCPI ont tendance à plus chercher des emplacements, on va dire
assez... ou de grandes agglos.
Oui, voilà.
Ils vont à Bordeaux, ils vont dans les grands. Alors que quand je compare les taux de rentabilité, parce que c'est le curseur de la SCPI dans les distributions et les collectes qu'ils font, on se rend compte que votre territoire est hyper bankable en réalité. Comment vous l'expliquez, vous ?
Je pense que Dax a toujours vécu dans ces prix assez raisonnables. Comme on le disait tout à l'heure, l'augmentation des prix qui a été de 30% à peu près.
Mais pourquoi ça n'a pas augmenté ? Il n'y a pas de tension locative.
Ah, pourquoi ça n'a pas augmenté ?
On est sur une qualité de vie qui est absolument incroyable. On a des différences en termes de pouvoir d'achat qui sont très significatives. On est allé en centre-ville, on a fait quelques courses.
Progression des prix de 30%
en 5 ans. On a des écarts en termes de coûts qui sont de moins 28% sur les grandes agglomérations. Donc, on mange bien, on se loge bien,
Sylvain,
ça devrait augmenter.
Les prix ont augmenté de 30% en 5 ans.
Oui, mais alors vraiment, vous étiez très bas.
Et voilà, c'est ça. Nous étions très bas.
Mais cette baisse,
c'est un phénomène de rattrapage.
Elle est liée à quoi ? Elle était liée à quoi ?
Mais Dax, je pense, et c'est ce qu'on se dit, depuis 5 à 10 ans, n'a pas pris son envol. Mais je pense qu'avec tout ce qui se fait aujourd'hui, avec cet hôpital, ce développement de ces zones, on n'a pas parlé de la médecine, on n'a pas parlé de tout ce qui est de l'éducation. Dax s'est doté de bachelors, d'écoles de médecine, d'écoles d'infirmières, d'aides-soignants. Tous ces jeunes, il va falloir les loger. Donc, dans peu de temps, on en parlera, on va avoir ces résidences de services qui vont faire du logement avec de la rentabilité, du LMNP. On a également ces résidences de seniors avec ces services qui ont également fonctionné. On a ces résidences thermales également où il y a un bail commercial qui est réalisé aux investisseurs. C'est-à-dire que l'investisseur n'a rien à faire et récupère son intérêt à la fin de ces mois de loyer. Donc, effectivement, je pense que Dax a beaucoup d'atouts. Il a une pression forte aussi des seniors. Les seniors, il y a le senior friendly à Dax, il y fait bon vivre. Il y a une structure très aménagée pour les seniors grâce au thermalisme. On peut les envoyer dans la chalosse déguster des bons plats dans les fermes, mais dans les montagnes, dans la basse montagne ou dans la haute montagne, on peut avoir les 100 km de plage à 30 minutes de Dax. Donc je pense que tous ces attraits, cette accessibilité, comme on le disait tout à l'heure, va être un fort développement pour Dax.
Monsieur le maire, justement sur l'envol et alors, sur l'immobilier.
À la limite, tant mieux s'il n'y a pas eu trop de spéculation, parce que quelque part, ça préserve aussi un peu. Mais je veux dire, c'est un vrai risque.
Je vous rejoins. Moi, je pense que ce qu'a dit Jean-Christophe est vérifié. Ce que vous avez dit sur l'augmentation de 30% en 5 ans, c'est pas neutre.
C'est pas neutre.
C'est peut-être un rattrapage, mais en tout cas, c'est plus 30%. Ouais. Et je crois, pour en parler avec les investisseurs qui viennent, ils ont le sentiment de plutôt, si vous me passez l'expression, acheter à la baisse. Parce que ce plus 30%, pour moi, ne va pas s'arrêter là. Et c'est en partie, parce que je vais y revenir, il faudra encadrer ça, mais tout ce qu'on fait, quand je parle d'attractivité, d'augmentation des équipements attendus, de la qualité des espaces publics et de tout ce qu'on peut trouver sur la ville, c'est justement pour favoriser aussi cet essor. Et cet essor, la contrepartie, c'est l'arrivée des populations, la nécessité de les loger. Donc logement neuf, réhabilitation, augmentation des prix et ça, en tant qu'élu, on est très vigilant parce que on voit que quelques territoires aux alentours de chez nous, que ce soit au sud ou au nord, quand on peut plus maîtriser, ça pose des problèmes.
Ah ouais, vous voulez encadrer les loyers ou pas ?
Alors moi je veux pas. Alors, c'est pas trop dans ma conception des choses pour vous dire.
Terrain glissant.
Mais quand on arrive à encadrer les loyers, c'est qu'on a plus d'autres solutions. Et qu'à la limite, on a agi trop tard. Alors, je sais que c'est facile à parler de parler de tout ça comme ça, mais je pense que c'est en amont qu'il faut déterminer quelle typologie de logement, où Maître Guémard le disait, on a développé l'offre étudiante. On a 1500 étudiants aujourd'hui sur le Grand Axe. Bah, il faut qu'ils se logent, ils ne sont pas tous chez leurs parents.
De toute façon, vous avez besoin de ces investisseurs.
On veut faire venir des familles, des actifs, parce qu'on est très content d'avoir les seniors qui sont là. Jeunes retraités, ce sont des gens qui s'engagent dans le tissu local, associatif.
Qui ont un fort pouvoir d'achat.
Et autres qui ont un pouvoir d'achat. On est très content de les avoir. Il faut aussi pas décrocher sur la catégorie des jeunes actifs et des familles. On y travaille, on met les services en face et on suit tout ça pour que tout le monde trouve tout ce qu'il lui faut. Donc c'est en amont qu'il faut en permanence réfléchir à tout ça. C'est pas effectivement quand vous êtes saturé que vous avez la volonté d'encadrer le loyer, c'est qu'à la limite c'est déjà trop tard parce que de toute façon
vous
pouvez pas contrecarrer.
Comment vous faites en amont? Parce que non mais
il y en a qui le font, Sylvain. Le maire de Chamonix interdit la construction de résidences secondaires. Et on voit que c'est un mouvement aussi qui est en train
de faire un mouvement. Alors attends,
Olivier, sur le littoral, Olivier, en zone montagneuse,
absolument. Attention, on voit qu'à la mairie de Paris, certains.
Non mais Olivier, ce que tu dis là est très juste. Oui. Mais donc c'est un pouvoir politique de la même nature que celui d'endiguer les loyers. Je prends le cas de votre collègue de Saint-Malo, qui a carrément interdit le Airbnb et le logement saisonnier, qui est délétère. Mais parce qu'ici, le logement saisonnier, c'est quand même un enjeu majeur.
Vous avez la même chose sur le Pays Basque. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on en arrive là avec des mesures qui, pour moi, sont contraires à ma philosophie. Je pense que il faut que tout s'équilibre de manière un peu plus naturelle. Et quand on en arrive là, c'est qu'on n'a plus le choix. Donc je ne conteste pas ceux qui ont été amenés à le faire parce qu'ils ont pris leur décision en fonction des éléments auxquels ils étaient confrontés. Notre but, et je ne dis pas que c'est facile, c'est de préparer ça et d'anticiper ça au mieux avec la typologie du logement. Regardez, quand on parle de DAX 2035, c'est se dire de quoi aurons-nous besoin en 2035 et pas uniquement en 2025. Et donc d'essayer avec, et juste pour finir, avec les gens dont c'est le métier, c'est-à-dire que moi je pense que c'est aux investisseurs, bien évidemment, de faire du logement et pas à la collectivité directement, mais avec eux, d'avoir un dialogue en permanence. Il n'y a pas quelqu'un qui mène un projet sur DAX sans qu'on ait eu plusieurs réunions avec lui pour discuter du projet et voir comment l'adapter aux objectifs de la collectivité.
On va avancer, parce qu'on a un temps contraint, mais c'est important d'aborder ce sujet.
Dernière question. Oui, maître, à la fois c'est important, vos conseils pratiques, vos règles d'or, vous maître, quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier.
Les bons conseils du notaire.
Alors, le bon conseil. Alors, pour le vendeur, je dirais que le vendeur, il faut pas qu'il soit un gagnant du loto quand il met son bien à la vente. Il faut qu'il ait quand même une idée des références, qu'il ait confiance en son agence.
Qu'il ait envie de prendre son bien pour la huitième merveille du monde, quoi.
Voilà, c'est ça. Et qu'il ait confiance dans une agence ou d'une personne qui peut lui donner le bon prix.
Sur l'évaluation, bien sûr.
Évidemment, puisque, si vous voulez, sur 10 maisons, toujours les plus hautes font vendre les plus basses et que ça, les vendeurs ne s'en rendent pas bien compte, et surtout en temps de crise. Par ailleurs, on dirait également, conseil pratique pour un notaire, préparez votre dossier, c'est-à-dire les diagnostics, on le verra tout à l'heure. DAX, nous avons aussi une obligation de contrôle de l'assainissement. Tout ça, c'est des sujets et des discussions qui sont importantes. Et pour un vendeur, également, que toutes les autorisations d'urbanisme soient, civiles soient obtenues. Pour une copropriété, souvent on annexe une partie commune. Pour un ADAX, très souvent, on a tendance pour une maison à transformer un garage en logement curiste, pour ce qu'on disait tout à l'heure, sans autorisation. Donc au dernier moment, on se rend compte de ça. Donc ça, bien travailler son dossier pour le vendeur. Pour l'acquéreur, eh ben c'est un petit peu la même chose, tout en ayant bien sûr bien vu leur financement et vu que tout allait bien se passer. Et qu'ils aient aussi une description de leur objectif. Parce que très souvent, aussi bien vendeurs qu'acquéreurs signent trop vite. Et la valeur du notaire, c'est de pouvoir leur donner conseil et leur dire que ce qu'ils signent, c'est un engagement juridique et fiscal qui peut avoir, qu'ils perçoivent peut-être pas forcément. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les agences et avec les vendeurs et les acquéreurs en disant « Envoyez-nous les documents et notre valeur ajoutée, c'est de vous dire « Voilà, vous pouvez signer. Et est-ce que ça correspond à vos objectifs ?
C'est très clair.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Applaudissements. Alors,
À suivre, nous allons recevoir Alexis Patachon, dans quelques instants, directeur général de Nexity Pays Basque et Landes, qui va nous parler justement des projets de construction, du réaménagement, mais aussi de la régénération urbaine. C'est tout de suite après ça.
Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity.
Voilà, de retour à Dax, dans cet écrin architectural de l'Atrium, toujours en présence de notre hôte Julien Dubois, maire de Dax. Et encore un immense merci à vous, monsieur le maire, mais également à toutes vos équipes. Ils ont été absolument adorables. On a été très bien accueillis. D'ailleurs, nous sommes toujours très bien accueillis dans les villes. Et on en est très heureux. La vie ensemble, je trouve que ce slogan me plaît beaucoup, puisque c'est véritablement ce qui fait souche dans une société, de vivre en harmonie. Et c'est Albert Camus qui disait que le danger de l'unité, c'est l'uniformité, savoir construire en cultivant les aspérités et en cultivant les identités également, celles qui sont régionales, et de la richesse qu'apportent ceux qui viennent dans les territoires. Je pense que cette mixité sociale et fonctionnelle me paraît extrêmement important. Alors vous êtes chez Nexity un acteur de premier plan, parce que vous êtes numéro un, donc pour être très clair, ça calme tout de suite. Et surtout, vous soutenez beaucoup les villes moyennes et vous êtes présent quasiment dans tous les territoires. Ça fait longtemps que vous êtes sur ce territoire.
Oui, bonjour à tous. Oui, en effet. Première résidence Nexity sur le Grand Dax, c'était en 2007. Et la particularité de Nexity, c'est d'avoir un ancrage territorial assez large. On a une vision assez métropolitaine quand même, et toute l'expertise des métiers était jusqu'ici très métropolitaine. Aujourd'hui, on a un repositionnement stratégique qui nous amène à redescendre toute l'expertise métropolitaine à l'échelle des villes moyennes. Et Dax en est et va en être un grand bénéficiaire, puisqu'on va accompagner la ville sur tous les métiers, que ce soit la réhabilitation que vous avez évoqué tout à l'heure, le tertiaire, l'hôtellerie ou le logement. Donc voilà, depuis 2007, 600 logements ont été livrés sur le Grand Dax. Nous avons des équipes basées à Bayonne, 25 collaborateurs qui naviguent entre Dax, Mont-de-Marsan, Pau et la Côte Basque, des amoureux du territoire. Voilà, qui donne du cœur au quotidien pour accompagner les villes moyennes.
Face à des collectivités locales et à des élus locaux comme Julien Dubois, qui sont très proactifs sur la question du logement de leurs administrés, avec la qualité qui correspond, quelque part ça facilite également le travail. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus, avec les nouvelles générations d'élus, qui finalement ne ressemblent plus aux élus qu'on a connus, une véritable alliance entre le partenariat public-privé? Puisque aujourd'hui, je le sais, Julien Dubois et tous vos collègues vous ont emboîté le pas, savent que les investisseurs privés sont nécessaires à l'équilibre du territoire. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans les relations que vous avez avec la collectivité ?
Oui, oui. Dax, ça a été très simple. Dès 2020, monsieur le maire nous a posé une question. Comment vous pouvez m'aider à capter les familles et les jeunes actifs sur le territoire ? Tout en prenant les objectifs de la loi climat et résilience de la ZAN, que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc le cap était très clair.
Est-ce qu'on est face à un maire bâtisseur ?
On a
au sens noble du terme, hein, j'ai
oui,
pas bétonné. Hein.
Oui, le cap a été mis, il y a un cap, Dax 2035, loger les familles et les jeunes actifs. Si on répond à cette équation, on est bâtisseur. Des services exigeants, rigoureux, et ça nous pousse quand même à l'excellence. Donc oui, on construit Dax.
Alors j'ai un mot à vous dire justement sur ce qu'on appelait le nouveau Nexity ou le New Nexity. Vous avez beaucoup communiqué, vous avez même changé de logo. On voit que vous êtes devenu un ensemblier urbain où vous répondez finalement sur tout ce qu'on appelle les classes d'actifs, c'est-à-dire toutes les natures d'immobilier, tertiaire, retail, résidents gérés, hôtellerie. D'ailleurs, vous êtes sur des projets extrêmement intéressants. J'aimerais que vous nous développiez, si vous voulez bien, juste cette stratégie qui fait qu'aujourd'hui, dans la dimension que vous avez, vous, le patron du Pays Basque, sur lequel vous avez, ça doit être extrêmement enrichissant, parce que vous passez à la fois du tertiaire le matin, vous arrivez sur l'hôtellerie à midi, vous allez sur du logement, vous avez une vision à 360 degrés de l'aménagement et de oui. Bâtir la ville sur elle-même également.
C'était une demande de nous, les opérationnels terrain, avec un ancrage fort sur le territoire. On n'arrivait pas à répondre à tous les besoins de nos villes.
Parce que vous étiez monosilo, c'est
ça ? On était résidentiel neuf, on va dire. Sauf qu'il fallait accompagner la ville dans la restructuration de son cœur de ville. Il faut soutenir l'attractivité touristique en mettant de nouvelles gammes hôtelières. Il faut développer le développement économique avec de l'immobilier tertiaire. Et ça, jusque-là, cette expertise et cette compétence étaient plutôt métropolitaines. Donc moi, tout seul, nos équipes, nous n'avions pas toute cette expertise. Donc c'était redescendre l'expertise nationale à l'échelle de nos territoires pour pouvoir dire, ben voilà, DAX 2035, on va intervenir là-dessus, on va travailler sur des vieux hôtels qui ont besoin d'être structurés, réhabilités en logement. Voilà, on va venir accompagner la ville dans tous ces enjeux. Donc ça, c'est vraiment repositionnement stratégique de 2025 qui va nous permettre d'accompagner les villes moyennes. J'aime pas non plus ce terme. Moi, je suis un grand défenseur justement de ces villes moyennes. Et je pense que nos grosses agglos qui sont en train de saturer, sur des maires qui ont des dynamiques et des caps bien définis, on va s'amuser dans les années à venir.
Convaincu, et la démographie va vous donner raison. Et c'est pour ça qu'on a besoin effectivement d'élus locaux comme vous, Julien Dubois. Alors, vous n'avez pas fait que ça, parce que vous êtes devenu l'un des leaders en construction bas carbone. Vous avez sur des structures en ossature bois, par exemple, mais pas que cela. Vous faites aussi de l'assemblage hors site. Alors ça, est-ce que ça va se développer, ça, de plus en plus ?
Alors oui, il y a des partenariats stratégiques avec les industriels.
C'est bien, l'assemblage hors site, vous savez, c'est fou, ça réduit par 10 les nuisances sonores, ça vous livrez plus facilement, plus vite, et ça ne coûte pas forcément plus cher.
Alors, sur la...
ça développe aussi l'économie locale.
Non, on a la chance d'avoir, nous, des acteurs du territoire, dans le sud-ouest, des acteurs avec qui on a des partenariats pour pouvoir développer ces systèmes constructifs. Donc, il faut qu'on le démocratise, il faut qu'on ait des économies d'échelle pour y arriver. Mais oui, on accompagne les villes dans la décarbonation et ça passe par ces constructions hors site.
Alors, une petite question, rapidement. Une parenthèse. En fait, pendant longtemps, le modèle économique était de vendre à 50% aux accédants, 50% aux investisseurs privés. C'était le modèle, en fait, de la promotion classique, promotion privée dans le neuf. Maintenant qu'il y a la disparition du dispositif Pinel, quelles sont les alternatives? Et si j'étais investisseur privé, qu'est-ce que je pourrais faire ici à Dax?
Alors, les investisseurs privés, ils n'ont pas quitté totalement le marché. C'est juste qu'on ne leur propose plus de rentabilité.
Oui. C'est vrai que le Pinel est orienté. Il y a autre chose maintenant.
À ce jour, on n'a pas grand-chose à leur proposer sur le territoire où on a des prix qui sont au-delà des 5 000 euros. Dax, on est sur un marché sain qui s'est réajusté assez facilement.
D'accord.
On était, avant Covid, aux alentours des 3 000, 3 200 euros dans le neuf.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui?
Non. On a connu donc une forte inflation post-Covid qui a amené Dax aux alentours de 3 600, 3 800 euros. Et là, on a un réajustement qui est en train de se faire à 3 300, 3 400 euros. À ce prix-là, on est en adéquation avec les revenus du territoire. On loge autant de la résidence principale qu'on attire des investisseurs qui vont trouver des rentabilités. On a un petit frémissement, une petite tension sur le marché locatif, mais on arrive à avoir des rentabilités entre 4 et 5 %.
Alors, j'ai regardé les valeurs locatives sur le neuf. C'est vrai que c'est beaucoup plus cher que l'ancien, hein, parce qu'en moyenne, avec maître Jean-Christophe Guémard, on était sur entre 10 et 14 euros du mètre carré en location. Là, sur le neuf, on est entre 18 et 20.
Hein. Ouais, on a livré une résidence...
18 ans, mais on s'approche des prix de grandes agglos. Hein.
Ouais, on a livré une résidence au sud de Dax, domaine de Baluard, la rue de Pébaste. Mise en location début d'année ou fin d'année dernière, et oui, on a eu des loyers qui ont touché les 15-16 euros.
Et vous avez loué
On était très étonnés. On s'en réjouit pas forcément de cette tension locative. Ça fait de la rentabilité, mais bon, je pense que c'est assez court-termiste de s'en réjouir. Donc, point d'attention là-dessus.
J'ai envie de, et je demanderai pour conclure après l'explication de Julien Dubois, son avis, c'est l'opération du Grand Axe que vous faites sur le projet territorial du Grand Axe, notamment 45 logements de jeunes actifs en patrimoine. C'est vachement intéressant. 59 logements libres destinés aux primo-accédants avec une TVA ultra maîtrisée, puisqu'elle est à 5,5%, et deux commerces en pied d'immeuble. On voit bien que là, vous êtes sur un ensemble urbain.
Oui.
Vous pouvez nous en parler?
Ouais. C'était la question que nous était posée par Monsieur le maire dès son prise de mandat. Comment répondre aux problématiques jeunes actifs et familles? Donc, on l'a pris au premier degré. Donc, cette opération, c'est une requalification de friches en entrée de ville, en entrée de centre-ville même, sur lequel on vient capter deux commerces, donc un commerce alimentaire, une boulangerie, pour animer le rez-de-chaussée, dynamiser le quartier. Une résidence jeune active, donc là on vient soutenir le développement de l'enseignement supérieur, donc 45 logements étudiants jeunes actifs qui vont être gérés par SA Patrimoine, un bailleur du territoire. Ensuite, une cinquantaine de logements T2 ou T4 éligibles à la TVA 5.5, donc qui nous a aidé à capter sur les T2 des primo-accédants. Il y a quand même 30% de ménages d'une seule personne sur Dax, il faut faire quelque chose pour les primo-accédants. Et ensuite, on a développé pas mal de grandes surfaces, T3, T4, pour capter ces familles. Et petite particularité, on a bâti des vraies maisons sur le toit, au quatrième étage. Donc on a 8 maisons qui vont jusqu'à 100-120 mètres carrés, qui ont trouvé des preneurs sur des budgets entre 300 et 400 000 euros, donc de jolis budgets, un bien assez atypique. Et ça, c'était vraiment une innovation qu'on a portée avec nos équipes pour dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on va proposer à nos familles comme expérience dans le centre-ville, donc du logement désirable.
Et il reste encore des trucs à acheter ?
Ah ben oui. Donc là, on va livrer... on vous en a laissé un de côté. Non, on livre la première phase en juin et on lance commercialement le mois prochain la phase 2. Donc il va rester trois maisons sur le toit et du logement classique.
Est-ce que vous pouvez dire que le territoire, vous connaissez bien la situation de la construction neuve dans le pays, hein, c'est une catastrophe. Le marché s'est rétréci de moitié, mais ça vous le saviez déjà. On a beaucoup de players du secteur de la promotion qui ont disparu. D'ailleurs, pas très loin d'ici d'ailleurs également. C'est une véritable catastrophe, surtout que les Français veulent acheter et ils veulent se loger. Quand, monsieur le maire, vous voyez des partenaires fidèles comme Nexity qui jouent le jeu, quelle est votre vision justement de ce type de partenariat et comment vous organisez finalement à la faveur des demandes que vous avez sur le plan démographique, parce que vous avez transcendé la ville, et on le voit, hein, parce que tous les chiffres aujourd'hui sont à la limite plaident pour vous, et du coup favorisent votre réélection potentielle, ouais, parce que votre bilan est plutôt sympa. Quel est votre avis sur cette question-là ?
Sur le partenariat avec des opérateurs comme Nexity, il est crucial. Enfin, moi, j'ai toujours dit depuis le début du mandat, nous on aime les entrepreneurs, ceux qui viennent créer de l'activité économique sur le territoire, et les investisseurs, parce qu'on a besoin
Vous les aider à émerger, parce que c'est aussi l'intérêt de la
Moi je pars du principe qu'une collectivité comme la nôtre, surtout dans le contexte actuel, ne peut pas tout faire. Elle va pas aller créer du logement à la place de ceux dont c'est le métier et qui ont l'expertise. Par contre, il faut que ils soient convaincus quand ils arrivent que il faudra qu'on tombe d'accord sur les objectifs. Et c'est vrai que d'avoir des sociétés qui ont toutes ces cordes à leurs arcs nous permet d'avoir des interlocuteurs qui très rapidement comprennent. Le projet dont on parlait, avenue Saint-Vincent-de-Paul, pour ceux qui connaissent, et l'illustration quand même de tout ça, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Alexis, mais on a atteint beaucoup d'objectifs qu'on s'était fixés sur les différents publics, ces jeunes, ces accessions à la propriété, ces jeunes étudiants. Et puis, au dernier étage, il faut que vous vous déplaciez pour le voir, parce que maintenant, ça a bien construit, on les voit bien, des maisons carrément en attique où on peut vivre en famille, bénéficier d'une vue extraordinaire sur toute la ville et l'agglomération, et bénéficier aussi de tous les services, puisque je pense qu'on est à 5 minutes de la gare à pied et 5 minutes du centre-ville. C'est donc l'illustration de ce qu'on peut faire, de ce qui va se faire beaucoup, j'en suis convaincu, parce que on le voit bien au contact qu'on a de plus en plus nombreux avec des investisseurs qui, en début de mandat, se positionnaient pas trop sur notre territoire, qui aujourd'hui ont envie de mener à bien ces projets, parce que raréfaction due aux ânes aussi à l'extérieur et... perception que c'est le moment d'investir ici parce que ce sera plus vertueux par la suite. Et puis il y a aussi dans ce que vous disiez des phénomènes conjoncturels. Moi, je pense que ce qu'on constate sur certains prix de loyer est aussi un report sur des difficultés d'investissement pour certains couples avec les tensions sur le marché bancaire et la capacité à obtenir des prêts. Donc il y a parfois aussi des reports sur la location. On est en capacité d'y répondre, tant mieux, et on sait qu'ils rentreront par la suite sur le parcours résidentiel pour s'installer plus durablement sur le territoire. Mais encore une fois, tout est réuni dans l'écosystème, les équipements, la formation avec de l'enseignement supérieur qui se développe, l'offre de santé qu'on fait se développer aussi par des équipements structurants, l'aspect économique, on a des zones économiques qui se développent, parce que c'est bien beau de faire venir les personnes, mais il faut qu'elles puissent travailler. Donc, je rassure tous les investisseurs comme Monsieur Patachon, c'est le moment de venir,
c'est plutôt
et ça ira bien après.
C'est plutôt bon signe, ça.
Oui, on travaillera sur des aménagements multifonctionnels comme le Sablard avec plaisir.
J'ai posé la question à Maître Guémard qui nous a donné les éléments sur l'ancien. Sur le neuf, quel est le taux moyen de rentabilité que vous avez identifié? Alors, quand je prends aujourd'hui le prix moyen au mètre carré plus la rentabilité locative, on n'est pas loin des 5% brut.
Oui, avec le réajustement des prix à 3400 euros du mètre carré, on est sur des rentabilités entre 4 et 5%.
Donc ça reste une zone d'investissement.
Donc les investisseurs sont présents à ce niveau de prix-là.
Et c'est important parce que le marché repart, il est fébrile, mais il repart. Il est temps que ça redémarre et on souhaite que finalement, quelque part, le Dax, ce soit un peu un lab pour les autres agglomérations, pour les autres villes, pour redynamiser le marché de la construction, qui en a bien besoin. Il faut quand même rappeler que c'est une économie qui fait travailler 2 millions de personnes dans notre pays, puisque la construction, c'est l'artère fémorale de notre pays. Il faut bien le dire, et c'est important. Applaudissements pour Alexis Patachon. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Next City, Pays Basque Land. Dans quelques instants, on va recevoir Pauline Courbet-Dubos, qui est responsable des affaires publiques chez Elio. On va parler justement de rénovation énergétique, monsieur le maire, et on va lui demander d'ailleurs si Dax est une bonne élève dans la catégorie des lettres énergétiques. C'est tout de suite après ça.
Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
Parce que l'énergie nous concerne tous, parce que la rénovation énergétique, c'est sans doute le chantier du siècle, pour améliorer le confort d'été, le confort d'hiver, avec les défis climatiques auxquels font face également les élus locaux. On est pour cette séquence bien mieux avec nos amis d'Elio, toujours ici à l'Atrium, dans un écrin architectural à Dax, en présence de Julien Dubois, le maire de Dax, qui nous accueille bien chaleureusement. On vous applaudit encore une nouvelle fois. Et surtout, ne changez rien. Voilà, Pauline Courbet-Dubost est avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour, Pauline, Sylvain. Vous êtes responsable des affaires publiques chez Elio. Vous allez nous dire d'ailleurs si finalement la ville de Dax est une bonne élève dans la catégorie énergie. Question posée par Olivier Marin.
Oui, plus que jamais, en tout cas, on a besoin de pédagogie, de transparence et vraiment de confiance. La rénovation énergétique, c'est pas qu'une contrainte réglementaire. C'est à la fois réduire les dépenses d'énergie, c'est contribuer aux défis climatiques, c'est s'impliquer dans la transition et puis c'est valoriser en fait son patrimoine immobilier, donc celui des autres et des générations futures. C'est vraiment très important. Peut-être quand même en introduction, rappeler le rôle d'Elio.
Elio, c'est une entreprise justement qui est experte de ces solutions de maîtrise de l'énergie et qui a la spécificité s'adapter à tous les consommateurs d'énergie. C'est-à-dire qu'on s'adresse tant à des gestionnaires d'habitat collectif que des propriétaires, que des représentants du secteur tertiaire, industriel, agricole. Voilà, on aide tous les consommateurs d'énergie à réduire leur consommation et leurs factures.
Alors, comme d'habitude, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dernières actualités réglementaires dans le secteur? Il y en a eu quelques-unes.
Quelques-unes. On dit ça tous les mois.
Ah oui. Alors, quoi de neuf?
Là, pour le coup.
Il y a à peu près une modification tous les 8 jours. Hein. J'ai compté.
C'est ça.
C'est fou. Hein.
C'est très dense et c'est vrai que l'instabilité institutionnelle et politique de ces derniers temps ne nous a pas aidés. Et typiquement, là, on attend la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est très importante pour notre secteur, qu'on attend depuis un an, qui, à la faveur de la dissolution puis la censure, voilà, a été, c'est perdu dans les couloirs. Donc, il y a une consultation qui a été ouverte et qui s'est close le 5 avril.
Incroyable.
Sauf que tant et si bien, on a mis tellement de temps à en accoucher que les sénateurs ont pris l'initiative de proposer eux-mêmes une programmation énergétique. Donc, finalement, cette consultation réglementaire, parce que la PPE doit être publiée par voie réglementaire de décret, va attendre un débat à l'Assemblée nationale pour être effectivement publiée. Pour vous rappeler ce qu'il y a dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, déjà, c'est un texte qui est aux côtés de la planification de l'adaptation au changement climatique et de la stratégie nationale bas carbone, une des composantes de la stratégie française énergie-climat, et qui doit nous mettre sur le chemin de la neutralité carbone, qui doit sécuriser nos approvisionnements énergétiques et stabiliser les prix. Donc c'est excessivement important comme texte.
Oui, c'est même, j'allais dire, à la lumière de ce qui se passe, des faits exogènes. Ça fait très très intello de dire ça comme ça.
Oui, donc c'est très,
voilà. Très bien. Des problématiques, on va dire géopolitiques,
absolument,
de l'instabilité réglementaire qui en découle. Parce que finalement, alors on peut faire un peu de politique et dire il fallait s'y prendre un petit peu avant, mais la relocalisation industrielle, la remaîtrise de l'énergie, notamment la poursuite du programme nucléaire, par exemple, en fait partie, et c'est donc plus que majeur quand on voit aujourd'hui l'état de dépendance dans laquelle nous nous trouvons. Donc je peux vous dire qu'on vous écoute des deux oreilles. Hein.
Alors nous, sur la partie énergétique, quand même, avec le nucléaire français, on a une sécurité et cette chance, et aussi d'avoir une électricité quand même assez décarboné, mais c'est vrai que c'est pas le cas de nos voisins européens.
Absolument. C'est non seulement pas le cas de nos voisins européens, mais encore faut-il endiguer les problématiques de prix, parce que qui dit énergie dit prix, et on a aussi une population à satisfaire qui est quand même encore aujourd'hui un peu dépendante aussi. Alors, il y a le gaz russe, bien évidemment, il y a aussi les approvisionnements d'énergie fossile dont on ne s'est pas totalement débarrassé, donc c'est quand même pas un sujet... Alors, c'est vrai que ça paraît ardu comme ça, Pauline, mais ça concerne tout le monde, en fait, hein.
À l'énergie, absolument.
Oui, mais c'est, je veux dire, chacun à son niveau, on paye le tribut de cette, j'allais dire, bon, moi je suis un peu critique, hein, faut dire là-dessus, mais cette défaillance énergétique que la France a détricotée, que les gouvernements ont détricotée, parce qu'il faut rappeler que le général de Gaulle, et on lui doit, c'est à lui qu'on lui doit, cette politique énergétique, on est arrivé dans les années, vous le saviez ça, dans les années 70, nous étions les champions de l'énergie bas carbone, décarbonée, notamment avec les centrales nucléaires, mais surtout, l'énergie la moins chère au monde. Et regardez où on en est aujourd'hui, en 2025. Voilà. On poursuit.
Voilà. Alors, on poursuit du côté de la rénovation énergétique et notamment de MaPrimeRénov.
Alors, pour le coup, MaPrimeRénov, après beaucoup d'ASEA, on a quand même,
on a le chiffre,
priori sur une stabilisation. On n'a pas le chiffre, non. Alors là, on ne sait. En fait, il y a eu quand même une grosse période d'inertie au tout début de l'année à cause du non-vote du budget. Donc en fait, l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat privé, n'avait pas son budget pour pouvoir valider les dossiers et verser les primes. Donc de nouveau, en 2025, il y a eu un retard à l'allumage. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un budget de 4,4 milliards d'euros.
Ah, c'est sûr,
dédié... ça y est ? Oui, bah ça a été voté dans le budget 2025. C'est un budget de...
Ça, c'est fait.
Voilà, d'intervention, dont 3,4 milliards pour MaPrimeRénov. Voilà.
Ça va ?
C'est
une baisse.
C'est légèrement pondéré, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est aussi dans une période de sérieux budgétaire. On essaye de rééquilibrer la dette et le déficit. Donc, on doit chacun prendre notre part. Mais l'aide à la rénovation énergétique, à la transition énergétique, MaPrimeRénov, qui est une aide publique, est secondée par d'autres aides, et notamment des aides privées et les certificats d'économie d'énergie dont on parle souvent ici. Donc il y a d'autres leviers, il n'y a pas que MaPrimeRénov.
Vous parlez notamment des C2E.
Exactement.
Ouais. Les certificats d'économie d'énergie, dispositif de financement privé, dans absolument le principe pollueur-payeur. C'est bien
voilà.
Ça
pour, oui,
alors, enfin, je schématise.
On schématise, mais c'est très clair comme ça.
Alors Dax.
Alors avant de voir justement l'état des lieux pour le parc de logements à Dax, peut-être un mot sur l'accompagnement notamment des ménages avec Elio.
Absolument. Donc comme je le disais en introduction, Elio vraiment s'adresse à tous les consommateurs d'énergie, mais aussi et à plus forte raison aux propriétaires et aux gestionnaires d'habitat collectif. On propose vraiment une solution de bout en bout qui va du bilan énergétique à la livraison des travaux, au versement des primes, à la rénovation globale ou par geste.
Vous faites aussi les DPE.
Alors, on n'est pas DPIste, mais on travaille avec des DPIistes, en effet.
En
oui, bien sûr. Donc, comment est-ce que ça se traduit ? Il y a évidemment un accompagnement technique avec une phase de supervision et de préconisation de travaux, une phase d'accompagnement administratif et financier, donc avec la création d'un plan de financement donc dédié aux ménages, et un accompagnement administratif, on prend en charge toutes les démarches administratives, et un accompagnement social, parce qu'on rentre chez les gens quand on rénove un logement, c'est pas du tout anodin, et donc ça implique du conseil, de l'accompagnement, et aussi une détection des éventuels foyers en situation de précarité énergétique, et à ce titre, Elio est membre d'un programme qui s'appelle Stop Exclusion Énergétique, d'un collectif qui est membre fondateur, et qui est un collectif qui, justement, partout en France métropolitaine, vient accompagner ces ménages en situation de précarité énergétique en leur faisant bénéficier de programmes financés par les C2E, les certificats d'économie d'énergie, pour les sortir de ces situations de grande précarité.
L'état des lieux du parc de logement à Dax.
Alors Dax, oui, on a un nombre d'habitants de 21 716 pour la ville et 52 776 pour l'agglo.
Quel précis ?
Ça, c'est les chiffres 2021.
C'est les chiffres 2021 de l'INSEE, en effet. avec à peu près 60% d'occupants locataires et 40% d'occupants propriétaires, et une ville qui est plutôt plus performante, enfin, qui a un parc de logements plutôt plus performant que la moyenne française. C'est-à-dire que la moyenne française, 1er janvier 2022, on était à 17,5% de logements F et G, donc des passoires thermiques, et à Dax, on est à un tout petit peu moins de 11%.
Ah, bravo. Oui, très bien, oui. Bravo.
C'est une surprise pour vous,
ça vous, maire, vous êtes d'accord enfin,
ça... Alors, une surprise, non, mais, ouais, je vous rejoins sur l'intérêt et la nécessité d'aller bien évidemment sur ces sujets. Tout d'abord pour les personnes qui vivent dans les logements, parce que ce sont des coûts de fonctionnement sur les budgets des ménages qui sont énormes quand on n'y est pas. Et je vous rejoins aussi sur la difficulté de mener à bien ces projets de rénovation énergétique, où on constate en fait, puisque notamment avec l'agglomération, on accompagne, on constate, un, ce que vous sembliez sous-entendre, c'est la jungle des dispositifs dans laquelle les gens ont bien du mal à se frayer un chemin. Et donc, de ce point de vue-là, on essaye de mettre en place des guichets uniques, des accompagnements. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et deux, pour les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants, parce qu'on a aussi des propriétaires bailleurs qui ont un petit, entre guillemets, patrimoine immobilier. Quand on voit que si les objectifs à atteindre sont trop élevés dans un temps court, ils sont prêts à renoncer aux aides et à faire les choses petit à petit. Eh oui. Et donc, du coup, à pas atteindre cet objectif vertueux qu'on est en droit d'attendre. Effectivement, on a donc besoin de structures comme les vôtres, hein, qui accompagnent les habitants du territoire pour atteindre cet objectif qui reste effectivement louable et utile.
Alors, justement, la transition pour accompagner les habitants du territoire, comme à chaque fois, Elio, donc vous avez pris deux cas concrets d'accompagnement de rénovation global, notamment à Saint-Paul-les-Dax, c'est une copropriété.
Absolument, une petite copropriété donc de 15 logements, mais répartis.
Un cas réel, hein, que vous avez.
Oui, absolument. Mais répartis donc sur une surface habitable de 1153 m². Donc c'est une copropriété un peu particulière et vous allez comprendre pourquoi. Donc on a un système de chauffage collectif au fioul, une étiquette F au DPE.
Ah ouais.
Donc F au DPE, ça veut dire interdiction de location à horizon 2028, si le calendrier ne change pas, pour bien rappel, sûr. Parce qu'on a quand même toujours climat et résilience aussi.
Oui,
qui même, c'est bien de le rappeler, c'est bien.
Ça ne change pas, ouais, j'aime bien.
Donc étiquette F. Post-travaux, on arrive à une étiquette D et à un gain énergétique de 61,48%.
Pas mal.
Super. À la faveur donc de travaux d'isolation, donc plancher haut, comble perdu, et de changement de ce système de chauffage. Donc on quitte le fioul pour une PAC RO pour la partie chauffage, et pour l'eau chaude sanitaire, on met en place donc un ballon thermodynamique collectif. Ce qui se passe pour cette copropriété, c'est qu'elle était éligible au coup de pouce rénovation globale en copropriété. Et quand on quitte un système de chauffage comme une chaudière au fioul, ça, on peut atteindre une bonification jusqu'à x3 des aides. Et là, je parle des aides privées, je parle des
oui,
C2E.
Bien sûr.
Ce qui fait que pour que cette copropriété, on arrive à un reste à charge à 1 euro. Mais de façon absolument, je veux dire, légale et dans les clous. Mais c'est bien pour ça que vous parliez de jungle au niveau des aides. Pour savoir qu'une copropriété est éligible à un coup de pouce rénovation globale et le mettre en œuvre, déjà, il faut être signataire de la charte coup de pouce. Donc, ça peut pas se faire sans un délégataire comme Elio, par exemple, évidemment. Donc, pour vous donner les chiffres, on avait 123 000 euros de travaux, enfin, 1020, et on est à 123,19 euros d'aide.
D'accord. 1 euro d'aide. Alors, je retire ce que j'ai dit sur BFM Business dans mon édito, où je disais que c'était une arnaque, les pompes à chaleur pour 1 euro, je le retire, puisque vous avez...
Alors, là, c'est une rénovation globale.
Oui. Non, mais je fais un peu d'humour.
Ce
mais
qui est une arnaque, c'est quand on vient vous voir en vous disant d'emblée, je rénove pour 1 euro.
Ceux qui viennent vous voir, mesdames et messieurs, en tapant la porte, en disant ça vous coûte 0 ou ça vous coûte 1 euro, vous fermez la porte, d'accord, ou vous allez à l'ALEC local pour vous renseigner, parce que ce sont des comportements délétères, malheureusement, qui rejaillissent sur les bons players,
hein, absolument,
et qui aujourd'hui favorisent l'éco-délinquance. L'arnaque à MaPrimeRénov', juste l'an dernier, vous le savez, hein, c'est 400 millions d'euros.
Oui.
Donc c'est pas neutre du tout, et c'est pas juste que cet argent n'aille pas vers ceux qui doivent en bénéficier. Aussi le rappeler. Hein.
Et d'ailleurs, je rappelle au passage aussi qu'il y a une proposition de loi en cours d'examen, qui est la proposition de loi Cazenave, ancien ministre des Comptes publics, qui justement va venir assainir tout ça, à la fois sur le volet MaPrimeRénov', C2E, et aussi mutualisation des informations entre Tracfin, entre la DGCCRF.
C'est une très très bonne idée. D'ailleurs, il y a aussi un projet chez les diagnostiqueurs d'un QR code qu'on peut flasher avec son téléphone, mais aussi de l'eurodatage, parce que quand on va sur site pour faire un DPE, pour un T2 par exemple, vous le savez, il faut minimum 1h30. Voilà. Et donc on voit que certains DPE, les diagnostiqueurs, se sont carrément pas déplacés. Voilà, donc il y a aussi des mesures qui sont favorables aux consommateurs. Dernière question.
Deuxième cas concret, Pauline, c'est une logement maison individuelle, donc rénovation d'ampleur à Dax.
À Dax, tout à fait. Donc là, ménage rose, donc ça c'est le cadre MaPrimeRénov', donc on met des couleurs au ménage. Un ménage rose, ça veut dire que c'est un ménage dont les revenus sont considérés comme supérieurs, donc ce sont les moins aidés dans le cadre de ce dispositif. Donc pareil,
logique.
Voilà. Mais par exemple, pour les certificats d'économie d'énergie, le niveau de revenu ne rentre pas en compte.
Oui, ça c'est, donc, vrai.
C'est un dispositif très important de le rappeler quand même. Donc on a un système de chauffage au gaz pour une maison de un petit peu plus de 162 mètres carrés, un DPE E. Donc là, il y a eu vraiment une rénovation globale, c'est-à-dire qu'on est venu jouer sur l'isolation, la ventilation, le système de chauffage. Donc isolation des combles, des rampants, et des murs par l'extérieur, des planchers bas. On a mis en place une VMC hydro-réglable et installation d'une PAC, d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour l'eau chaude sanitaire.
Ventilation mécanique contrôlée, pompe à chaleur. Je vois pour ce point.
Oui, oui. Les néophytes. Oui, très bonne idée. Du coup, on arrive à une étiquette B, à un petit peu plus de 70% de gains énergétiques. Et donc, il y a une ventilation entre les primes C2E, donc les primes privées, et les primes MaPrimeRénov', pour le coup. Donc, il y a je le disais, donc 125 000 euros de travaux, un petit peu plus de 20 000 euros de primes, grosso modo 15 000 euros de C2E, 5 000 euros, un petit peu plus de 5 000 euros de primes, MaPrimeRénov'.
Et
donc pour un reste à charge de 105 000 euros.
Voilà.
Ce qui n'est pas anodin.
Ce qui n'est pas anodin, mais sur lequel il faut intégrer la récupération des économies d'énergie.
Absolument.
On peut lisser, et aussi la valorisation de l'actif.
La valeur
puisque
verte,
les écarts, alors nous, on a des statistiques qui sont entre 15 et 25 %. On confirme.
Oui.
Donc finalement, c'est un très bon investissement. Ça reste un très bon investissement.
Bien sûr.
Aussi, se poser bien la question de la revente. Hein. C'est très important.
Évidemment.
Bien évidemment. Merci.
Merci beaucoup.
Applaudissements. Vous restez avec nous. Il est temps de nous quitter. Bien évidemment, cette émission, elle est récupérable sur tous les agrégateurs de podcasts, sur Le Figaro, sur Radio Immo. Vous pouvez bien sûr partager vos commentaires et liker, bien sûr voir le formidable reportage qui a été réalisé par Grégoire Daricot et Alexandre Burkhardt. C'est l'heure des remerciements. Merci à Alexandre Burkhardt, directeur artistique, réalisateur. Merci à notre super producteur Grégoire Daricot, qui est en plus sur ses terres ici, à Dax. Merci à Lorenzo Il Magnifico, qui est derrière. C'est celui qui organise la logistique et bien sûr notre super ingénieur du son, c'est Théo Benoît-Hambourg qui est à la commande. Merci aux équipes de Paris, aux équipes du Figaro. Merci à tous nos partenaires, car sans vous, nous ne serions pas en capacité d'aller de ville en ville. Donc pour Helio, merci. Pour Nexity et pour le Conseil supérieur du notariat, vous êtes extrêmement fidèles. Et merci, puisque c'est comme ça qu'on peut aller dans les villes de France et dans les territoires qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et enfin, un immense merci aux équipes de la municipalité et bien sûr, je vous propose un triomphe pour Julien Dubois, maire de Dax.
Merci.
Et le mot merci. Quelques mots très rapidement. On a passé un très bon moment avec vous.
Mais écoutez, c'est réciproque. Vous êtes les bienvenus pour revenir quand vous le souhaiterez. Très important d'avoir, comme vous, des gens qui viennent à la rencontre dans les territoires des élus que nous sommes pour mettre un peu la lumière sur toutes les actions qui sont menées. De ce point de vue-là, je vous remercie et j'espère que vous avez passé et vous passerez à nouveau, puisque j'ai compris que vous serez là le 15 août, un excellent séjour à Dax et dans le Grand Dax.
Merci en tout cas, c'était un vrai merci. Applaudissements. Pour notre part,
On va se retrouver le mois prochain, nous serons à Chartres.
Dans la ville de Chartres,
voilà,
absolument.
Voilà, face à la cathédrale de Chartres, dans une ville magnifique. Ensuite, on continuera notre road trip dans toutes les villes. On vous le donnera le mois prochain, bien évidemment. Prenez soin de vous d'ici là. Et surtout, venez à Dax, manger des madeleines magnifiques, voir un paysage bucolique et en même temps, tourner vers l'avenir et l'innovation. Et ça, c'est grâce à nos élus locaux, grâce aux maires de nos villes que nous aimons profondément. À bientôt et surtout, bonne route à vous.
Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.